C'est un livre quand même de 800 pages. On a en main une documentation qu'on appelle de première main et qui évoque avec beaucoup de perspicacité le rôle des évêques, des théologiens, des experts de toute nationalité, en montrant aussi les enjeux théologiques et les enjeux de pouvoir.
Alors justement, quelle est l'originalité du regard que votre père a porté sur cet événement majeur ?
Eh bien, c'est d'avoir en sa personne un chrétien catholique, je dirais plutôt traditionnel, mais très bien formé, qui était tout à fait capable de comprendre même les enjeux théologiques qui étaient en cours de discussion dans le Concile, et qui doit les exposer à une autorité qui est finalement pas du tout dans l'ambiance de l'Église, qui est même agnostique, etc. Mon père devait essayer de faire comprendre la force des changements en cours.
Faire comprendre l'importance de ce qui était en train de se passer. Est-ce qu'on a l'impression que tout le monde n'était pas conscient qu'on vivait à ce moment-là un moment historique ?
Eh bien, je ne suis pas sûr que tout le monde était très conscient, et même parmi les pères du Concile, on voit bien ça. Ils ont mis beaucoup de temps à se découvrir et à se manifester. Ils ont eu l'impression au début d'être très pilotés par des choses qui avaient été préparées par la curie romaine. Et ils se sont petit à petit découverts à partir du moment où on a nommé les modérateurs, parmi lesquels il y avait le cardinal Sunens, qui était une personnalité de premier plan dans ce concile. On voit très bien dans tous ces rapports et dans les notes personnelles de mon père cette résistance des milieux romains qui, évidemment, devant la collégialité qui était vraiment l'objectif prioritaire presque de ce concile, les dicastères romains se dépossédaient de toute une série de prérogatives. Donc il y a eu tout de suite ce conflit entre une majorité qui était pour la collégialité, une minorité qui trouvait qu'on démolissait l'Église telle qu'elle avait été construite depuis 1870.
Voilà, vous citez un des dossiers sensibles, la collégialité. Il y en a eu d'autres, comme le dialogue avec les autres religions, les religions non chrétiennes.
Tout à fait. Alors, c'est une des choses passionnantes là-dedans, c'est de voir comment le Saint-Esprit passe par des luttes humaines. Et je crois que c'est un des grands traits de l'incarnation, finalement, qui ne doit pas nous effrayer du tout. C'est même passionnant de voir comment l'esprit se joue de toutes ces manœuvres humaines, trop humaines parfois, et quand on lit les choses à travers les rapports de mon père et certaines petites notes personnelles, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible au sommet de l'Église que se passent des choses comme ça ? Il ne faut pas s'en offusquer. Le Saint-Esprit passe à travers les convictions fortes d'hommes intelligents qui se battent pour la vérité. Mais je pense qu'effectivement, la vérité n'est jamais d'un seul homme. Elle est de Dieu.
Quel regard vous-même, alors, vous portez sur ces 40 ans ?
Alors, si moi, je me place comme moine bénédictin, théologien, bibliste, etc., 40 ans après, je crois qu'il faut reconnaître qu'à la fois, il y a eu certaines mises en œuvre, et à la fois, le courant qui, au cours du Concile, avait résisté aux choses les plus novatrices, eh bien, ce courant a certainement repris le dessus petit à petit dans la gestion quotidienne de l'Église. Et on a parlé de la collégialité. Je pense que c'est quelque chose qui mérite encore d'avoir un futur, ça.